Vous allez écouter un message de l'Église Nouvelle Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvelle Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
Donc, tout le monde aime des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Oui? Personne n'aime les mauvaises nouvelles? Y a-t-il quelqu'un qui est brave assez pour dire « je veux une mauvaise nouvelle ce matin »? Non? Ça se fait pas souvent, hein? Saviez-vous que l'Évangile, c'est une mauvaise et une bonne nouvelle? Ben, on aime moins le côté mauvaise nouvelle. Mais l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais avant que tu reçois une bonne nouvelle, il faut que tu connaisses la mauvaise nouvelle. OK? Dans le livre de Romains, Paul va nous expliquer, parce que nous sommes dans la série de Romains, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, Pasteur Emmanuel a donné le premier enseignement de notre série sur le livre de Romains. Il a expliqué longuement le contexte. C'est vraiment quelque chose à aller voir dans notre site web ou aller voir dans enseignement.com. Vous pouvez mettre le nom d'Emmanuel Diafoula et ainsi que audio. Puis vous allez avoir le premier enseignement qui était l'Évangile, c'est une puissance. Et c'est vraiment pour vous mettre un peu dans le jus là aujourd'hui. On va apprendre sur la vérité captive, ce que Paul nous enseigne. Et on va découvrir que Paul, il donne dans sa lettre une bonne nouvelle, mais aussi une mauvaise nouvelle. Et ça me rappelle l'histoire d'un homme de 70 ans qui va chez son médecin. Et rendu chez le médecin va faire des examens médicaux sur lui. Et puis, à la fin, il dit, « Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle, mais j'ai aussi une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu veux entendre en premier? » Alors, le monsieur réfléchit et dit, « Bien, j'aimerais entendre la mauvaise nouvelle en premier. » Il dit, « Nous avons découvert que tu as le cancer et que tu n'as que 2 ans à vivre. » Ah! Oh! Comment c'est possible que je puisse avoir une bonne nouvelle après ça? Aïe, aïe, j'ai juste 2 ans à vivre! Il dit, qu'est-ce qui pourrait bien être une bonne nouvelle? Il dit, ben, tu as aussi l'Alzheimer. Et dans 3 mois, tu vas oublier cette conversation. C'est malheureusement souvent le problème de l'être humain. Nous oublions la vérité et la gardons captive par notre capacité au déni et à l'oubli. Parce que pour savoir que tu as une bonne nouvelle, il faut que tu saches qu'avant, il y avait une mauvaise nouvelle. Mais s'il oublie la mauvaise nouvelle, ben, il ne sait plus rien. Il ne sait plus qu'il y a une bonne nouvelle. Alors, quel est le contexte du livre de Romains? C'est certain que j'encourage les gens d'aller voir l'enseignement de la semaine passée, où est-ce que c'était vraiment expliqué en détail la société romaine et tout ce qu'il y avait autour. Des chrétiens de l'époque de Paul. Cependant, je voulais quand même en donner un peu, qui est Paul écrivit la lettre des Romains vers l'année 57-58 après Jésus-Christ, lorsqu'il était à Corinthe. Alors, il écrit aux Romains de Corinthe, et il partait pour Jérusalem parce qu'il avait fait une collecte d'argent pour amener à Jérusalem, à l'église mère, qui vivait dans la pauvreté. Et voulait amener de l'argent pour aider ceux qui vivaient dans le besoin, un peu comme Action Nouvel Espoir. Alors, il a fait une collecte d'Action Nouvel Espoir pour l'Église de Jérusalem. Alors, juste avant de partir, il savait que son voyage à Jérusalem allait être dangereux. Il le dit, par exemple, dans Romains 15, 30-31. Il désirait cependant aller à Rome, ça faisait longtemps. Il y avait ce désir, ce projet d'aller à Rome, où il voyait que Rome était vraiment la capitale de l'Empire, où est-ce qu'il pouvait avoir de l'impact. Mais ce n'était pas pour s'arrêter à Rome. Il y avait un autre projet qui était d'aller après en Espagne, qui était une nouvelle découverte un peu. C'était une place où est-ce que plusieurs philosophes et poètes et de gens intellectuels habitaient puis influençaient la culture romaine. Alors, lui, il s'est dit, moi, je ne veux pas juste aller à Rome, je vais aller encore plus loin pour influencer même la littérature et influencer la culture à sa source. Alors, il parle de cela dans l'Évangile. Alors, si vous prenez le temps de bien lire l'Épître de Romains. Sa lettre est donc une préparation pour visiter ces chrétiens de Rome qui pourraient l'accueillir et soutenir sa mission. Parce que si, en plus, il va en Espagne, il a besoin d'un soutien. Un soutien même financier, spirituel, émotionnel et relationnel à Rome, qui est plus proche. Alors, il écrit cette lettre en préparation pour ce projet missionnaire et comme testament. Parce qu'en même temps, il veut, c'est son désir, mais il sait que Dieu, sa volonté, il est prêt à se soumettre. Il est prêt à se soumettre à sa volonté, puis il sait que il est comme si l'Esprit-Saint est en train de lui dire qu'à Jérusalem, ça ne va pas être facile. Il a comme cette impression. Alors, en même temps, l'écriture de la lettre de Rome, c'est à des gens qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais allé encore à Rome. C'est des chrétiens qui se retrouvent à Rome. Mais en même temps, il veut leur donner son testament spirituel. Il veut, par écrit, on sait que la lettre des Romains est très explicite, par exemple, sur la grâce de Dieu, la loi versus la grâce, plusieurs aspects qu'il veut vraiment que les chrétiens comprennent, qu'il enseignait depuis des années dans ses voyages missionnaires. Donc, c'est comme un testament, si vous voulez, de l'Évangile de Paul, que Paul partageait. En cas où son voyage à Jérusalem l'empêche d'y aller. Puis par le contenu de la lettre, il semblerait que l'Église de Rome était constituée des gentils, des non-juifs et de juifs, parce qu'il adresse les deux. Alors, Paul, dans la lettre à l'étude, se donne la mission de démontrer la culpabilité des gentils, des juifs et du monde à garder la vérité captive afin de justifier leur idolâtrie, leur péché, peu importe leur expression culturelle. Alors, le texte que moi j'ai à l'étude avec vous ce matin, c'est Romains 1, 18. Vous pouvez l'écrire pour le relire à la maison, à Romains 3, 20. C'est un grand bout de texte, mais il est divisé en trois grandes sections. Donc, il y a la culpabilité des gentils, qui est la première section. On va découvrir les sections en allant. Et je vais développer aussi quatre pensées principales dans ces sections. Alors, on a pas mal de lectures, mais c'est à l'écran, puis ensemble, on peut le faire. Amen? Amen. Alors, la première section, c'est que c'est la culpabilité des gentils. Il est en train de montrer la culpabilité devant Dieu des gentils, des non-juifs. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, dont le titre de notre enseignement ce matin. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, peut-être intellectuels ou analytiques, ou je ne sais pas, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Nous avons eu ce vendredi notre movie night, et puis on a décidé de regarder le nouveau film de Moïse, l'Exode, The Gods and the Kings, je crois que c'est le titre. Et ce qui nous a frappé, c'est comment dans le film, ils ont humanisé Dieu. Dieu, c'est un enfant. Et il fait des crises d'enfant un peu. Et c'est vraiment, c'est dérangeant à par moments. Mais c'est comment le monde perçoit Dieu. Comment le monde, c'est le côté humaniste qui se voit vraiment dans le film. et comment le monde a mis vraiment l'homme au centre. Et Dieu est comme un jeune garçon. C'est vraiment frappant de voir cela, puis c'est ce que Paul reproche la société romaine. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et c'est ça qui garde la vérité captive. Parce que la vérité, elle n'est plus la vérité. On l'enchaîne par le mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors, ces versets nous démontrent que lorsque je garde la vérité captive afin de promouvoir l'idolâtrie et le péché dans ma vie et dans celle des autres, je provoque la colère et le jugement de Dieu. Quand je veux l'idolâtrie dans ma vie, quand je la pratique ou la promouvois, et dans celle des autres, c'est là où que la colère et le jugement de Dieu vient contre moi. Paul décrit la réalité de la société de son temps, qui ressemble, si vous l'admettez, à la nôtre. Et cette société romaine plaçait l'homme au centre, comme j'ai dit, de l'univers au lieu de Dieu, le Créateur. Et lorsque l'homme se trouve au centre, il se livre à ses passions et convoitises sans frein. Car il ne se soucie pas de connaître Dieu. Ce n'est plus son souci. C'est qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce que moi je désire? Qu'est-ce que moi je veux? Ah, oh, je veux ci, ah, oh, je veux ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça. C'est je. On le voit, iPod, iPad, YouTube. Il y a toutes les concentrations sur l'individuel. Grande concentration. Et à cause qu'on ne se soucie pas de connaître Dieu et de se soumettre à ses lois spirituelles et naturelles, ben on ne va pas le faire. On n'a pas de problème à effreindre les lois de Dieu, que ce soit naturel ou spirituel. On va le faire. Il transforme la vérité en mensonge et le mensonge en vérité et approuve ceux qui le font. Lorsqu'on va contre les lois spirituelles et naturelles de Dieu, c'est à notre propre risque car nous aurons des conséquences, le jugement de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit humaniste, il veut qu'on soit christocentrique. C'est Christ le centre de même la création. Ce n'est pas l'homme et la femme. C'est Dieu. Il dit que l'homme et la femme en union, c'est l'image de Dieu. Il les créa Isha, homme et femme, à l'image de Dieu. C'était pour qu'on soit comme le logo de Dieu sur la terre, si vous voulez bien. Mais ce n'est pas ce que nous, on voulait être Dieu. On ne voulait pas être un logo. On voulait être Dieu. Alors, le texte explique le rôle puissant du Créateur dans le maintien de l'ordre prévu même pour la sexualité et décrit le chaos sexuel qui résulte de la tentative d'individus d'idolâtrer la créature au lieu du Créateur. Ça amène un chaos même sexuel dans une société. L'humanité possède un puissant désir qui la porte vers le bien. Cette aspiration innée à adorer notre fabricant et à louer celui qui a ordonné la vie, comme dans Romains 1, 19, 20. Lorsque cette aspiration est réprimée, elle est enveloppée de désirs inférieurs. Donc, l'aspiration pour Dieu, c'est les réprimer en amenant des désirs inférieurs. Quand on ne va pas vers la source, on va vers des mauvaises sources. C'est ça que Paul essaye de plus ou moins expliquer dans le texte. Il dit que la pensée, elle devient futile. Nos pensées, ils sont maintenant sur les choses les plus futiles. On vit pour les choses les plus superficielles et momentanées même. Un plaisir de 10 minutes ou de 1 heure. Puis, tout le monde, j'entends souvent, je me rappelle même quand je travaillais avec vétérinaire, souvent c'était Thank God it's Friday. T'sais? C'est genre, tout le monde vit pour vendredi quand ça va être 2 jours de vacances. Parce qu'on manque un sens un peu à la vie. Hein, on cherche le plaisir comme notre but ultime. Le but ultime, c'est mon heure de jeu vidéo pour les jeunes. Hein? Oh, l'école, c'était long. Oh, ce soir, je vais avoir mon 1 heure de vidéo. Oh, c'est vendredi, on va avoir le droit à la télé ou à des jeux vidéo. On a vraiment cette recherche de se remplir de choses futiles. Donc, la pensée devient futile et le cœur s'obscurcit. Nous sommes alors vulnérables à toutes sortes d'idolâtries, car notre désir premier ne consiste plus à adorer le Créateur. On n'est pas comme, « Ah, moi, je vais adorer Dieu, je vais être dans sa présence, je veux avoir cette intimité avec lui. » On est juste comme, « Ah, t'as-tu vu le gars là-bas? Il est-tu beau? Ah, oh, t'as-tu vu la fille là? Ah! Oh, » On est sur des choses futiles. J'ai eu la chance de lire un livre d'un auteur qui s'appelle Andrew Comiskey. Andrew Comiskey, c'est un homme qui a lutté avec l'homosexualité dans sa jeunesse et qui a, au travers d'un soutien d'un groupe chrétien et des gens qui l'ont aimé dans sa condition, l'ont aidé à aller vers Dieu et à être délivré de l'homosexualité. Et maintenant, après, il s'est marié, il a des enfants. Et il a senti un appel envers d'autres personnes qui luttent avec la sexualité déréglée, peu importe ce qu'elle est. Il dit, il y a même des hétéros qui ont des problèmes d'addiction, de pornographie, qui viennent le voir. Et peu importe, parce qu'une mauvaise sexualité, c'est mauvais pareil, si ce n'est pas dans le plan de Dieu. Alors, il se donne pour ce ministère qui s'appelle Desert Stream, et aux États-Unis, bien sûr. Et auprès des personnes qui ont des tendances homosexuelles, beaucoup, surtout. Puis j'aimerais vous lire un extrait du livre lorsqu'il parle de Romains et de l'explication du texte lorsqu'on parle de femmes qui sont allées avec les femmes, les hommes avec les hommes. Un peu comment lui explique le péché de l'homosexualité, mais comment il l'explique aussi d'une façon à ce qu'on est tous aussi coupable de ce péché, pas de l'homosexualité bien sûr, mais de l'idolâtrie qui est à la base. Alors, il dit, « Nous tous, chrétiens ou païens, émergeons d'un monde déchu qui brise notre désir d'adorer le Créateur et nous rend sensibles à des appétits inférieurs. Aucun d'entre nous ne peut se soustraire aux avertissements du premier chapitre de l'Épître aux Romains. C'est ainsi que Paul poursuit ses explications et décrit les pratiques homosexuelles comme le puissant symbole d'un désir qui s'est égaré. » Il montre ça comme un symbole, comme d'une perversion sexuelle résultant de l'idolâtrie spirituelle. Paul élargit cet exemple au domaine des pensées et à toutes les pratiques infâmes qui surgissent du cœur rebelle, dans Romains 1, 23 à 32. Celui ou celle qui souffre de son homosexualité, comme toute autre personne, a besoin de ce réalignement fondamental avec le Créateur. Le désir latent d'adorer Dieu doit être ranimé. Et quand tel est le cas, le Père devient l'objet premier de nos aspirations. C'est alors qu'il peut transmettre sa volonté et sa présence affectueuse à des désirs inférieurs, telles les tendances homosexuelles. De plus, l'idolâtrie relationnelle s'exprime lorsqu'une personne tente de se trouver elle-même en s'immergeant dans l'autre. Privé d'un sentiment de force intérieure et de bien-être, l'idolâtre se court de manière désordonnée devant l'autre en tant que source d'amour et de puissance. Il donne à cette personne une autorité qui n'est prévue à l'origine que pour le divin. Puis souvent, c'est, par exemple, avec l'homosexualité, c'est une crise d'identité, c'est une brisure dans l'identité. Souvent en relation avec le père à la maison, avec une dysfonction entre le père et la mère, l'environnement. Et qu'est-ce qu'il explique dans le livre, c'est aussi, et j'ai bien aimé son image, c'est vraiment qu'on c'est à la recherche, en sorte, d'être affirmé par le père qui ne s'est pas fait, et le recherche d'une façon perverse chez d'autres hommes. Et parfois, on peut porter jugement lorsqu'on voit des personnes qui souffrent de certaines choses, ou d'addiction, peu importe, l'alcoolisme, peu importe, mais tout en reconnaissant que c'est un péché, on doit toujours être la lumière dans ça, de toujours être un chemin qui dirige. Puis j'ai beaucoup aimé lire sur ce sujet avec ce livre. Je vous l'encourage, si vous voulez le lire, c'est... je l'ai dit, c'est la sexualité réconciliée, je crois, le nom du livre. Vers une sexualité réconciliée. Alors, si jamais vous êtes intéressé. Alors, la pensée de Paul, pourquoi est-ce que Paul a utilisé ce symbole? C'était vraiment pour expliquer la culpabilité, le jugement des pécheurs et idolâtres qui ne se repentent pas. À Rome, c'était vraiment quelque chose de très flagrant. Il y avait beaucoup, beaucoup, à la fin de l'Empire romain, beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient, de perversité sexuelle, des orgies publiques, des homosexuels, ils prenaient beaucoup plus d'ampleur. Il y avait aussi la boulimie, toutes ces choses-là, l'anorexie, toutes les choses qui, c'est drôle, ça revient, étaient présentes à la fin de l'Empire de Rome. Alors, c'est pour ça aussi que Paul adresse cela. Et la colère de Dieu, elle est là. Pourquoi? Parce que, oui, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Puis Dieu ne peut pas être en présence du péché et de la perversité. Donc, il est amour, mais il est juste. Et il est saint. Et il faut se tourner vers lui tant qu'il est temps. Là, on a le temps, c'est un temps de grâce. On peut aller vers lui, on peut être restauré, on peut être délivré de nos chaînes, de ce qui nous garde captifs. Alors, lorsque je fais le mal, par exemple, personnellement, parce que j'avais mis à l'image des gens, par exemple, qui commérages, ou j'avais mis à l'image des gens qui, je pense, l'image du point précédent. J'avais mis aussi des gens qui, des jeunes qui font de la pression pour qu'un autre jeune boit. Eux sont tous là avec leur bière, puis « Ah ouais, toi aussi! » Ou des femmes qui disent « Non, on ne fait pas le commérage, on fait du networking. » Et quand on fait ça, on emmène d'autres à pécher. Si moi, je viens et je dis « Hey, buddy, tu savais-tu que l'autre jour, là, telle personne m'a dit telle chose, puis elle a fait telle chose, puis c'est-tu, es-tu donc méchante? » Puis là, je t'amène à pécher. Là, tu dis « Oui, puis d'ailleurs, j'ai vu l'autre jour qu'elle avait fait telle chose. » Je t'induis à pécher avec moi. Et là, toi, tu vas prendre le téléphone, puis tu vas appeler une autre personne, puis tu vas induire une autre personne. Le networking. Même quelqu'un qui convoite, quelqu'un qui regarde la pornographie, mais il est en train de donner de l'argent pour un marché qui trafique des filles ou qui trafique même des jeunes garçons comme esclaves de la sexualité. Puis si c'était ta fille, puis si c'était ton gars, est-ce que tu voudrais le faire? Puis des fois, on ne réalise pas comment on participe au mal, puis on amène le mal à avoir plus d'impact dans nos sociétés en étant nous-mêmes pris et captifs. Si on veut délivrer les gens, Jésus a dit qu'il est venu pour délivrer les captifs. On ne peut pas nous-mêmes l'être. Moi, je ne peux pas, avec des chaînes, commencer à vouloir délivrer l'autre. Alors, on va se délivrer, OK? Je dois être libre pour délivrer. Il est temps que l'Église se réveille là-dessus. Il est temps que l'Église réalise sa culpabilité. Alors, si je fais la sexualité même hors mariage, j'induis quelqu'un d'autre dans le péché. Si j'abuse des victimes, je fais la même chose avec la pornographie. Toutes ces choses, c'est induire les gens à l'idolâtrie avec moi. Puis là, on amène le jugement de Dieu sur nous. C'est ça que Paul essaie plus ou moins de dire. Alors, Paul continue à élaborer sa pensée en démontrant la culpabilité de ceux qui condamnent les autres sans s'analyser eux-mêmes. C'est comme une transition aussi entre le point de culpabilité des gentils et celle des juifs, qui est la deuxième section. Alors, dans Romains 2, 1 à 11, ça dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Et j'aimerais juste faire un point là-dessus. C'est quoi qui m'amène à la repentance? C'est pas la colère de Dieu? Ah, la bonté de Dieu m'amène à la repentance. La bonté de Dieu. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissant à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Ici, on voit que lorsque je garde la vérité captive, par le mépris de la bonté de Dieu qui me transforme sans condamnation des autres. Il faut faire attention parce que des fois, on méprise la bonté en condamnant les autres, mais réalisant pas que nous, on ne le mérite pas. Parce que quand on méprise ou on condamne les autres, souvent, c'est par ce sens de supériorité. C'est par ce sens de « Dieu veut m'amener à vivre la vérité par le changement, par la repentance, et non par la condamnation des autres. » C'est pas en disant « Oh, sont-tu mauvais dans le monde? Ça n'a pas de bon sens. Le monde est rendu tellement malade. Fini, là, on est fini, là. » Ça l'amène-tu les gens comme « Wouhou, on va changer le monde! » C'est comme tout le monde fait un crash. Puis on ne réalise pas qu'avec cette attitude, on est en train de dire que nous, on est purs. Nous, on est meilleurs. Nous, on n'est pas comme le monde. Puis ils sont tellement pervers et mauvais, et voleurs et menteurs. Et... Non, on a un problème ici. Ce n'est pas ça l'évangile que Paul a donné aux Romains. Parce que si tu fais ça, si tu estimes que ceux que tu condamnes ont une condition pire que la tienne. Mais avec Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il ne fait pas d'acception de personne. Il n'y a pas de favoritisme ou de mérite. C'est pas que je suis meilleur que. Paul avait une bonne compréhension de la psychologie humaine. Ça se voit dans comment il argumente. En parlant de la culpabilité des gentils, il allait certainement avoir l'attention des religieux qui se diraient que oui, le jugement de Dieu est pour ces personnes immorales de la société. Cependant, il n'arrête pas son argument-là, mais il l'apporte plus loin. Il dit « Toi qui fais la même chose. Toi qui es coupable aussi. Ne te pense pas meilleur que. » Alors, c'est facile de dire que les autres font des mauvaises choses, mais toi, quand personne n'est avec toi, quand c'est juste toi, qu'est-ce que tu fais vraiment? parce que tu suis Dieu et tu es en relation vraiment avec Dieu dans ton temps privé? Ou est-ce que c'est juste une apparence? C'est là que certains se trompent de penser que Dieu ne connaît pas les choses qu'ils font en cachette, ni les vraies motivations pour connaître, pour les motivations de certaines bonnes actions. Tu sais, des fois, on fait des bonnes actions. Puis c'est vraiment des bonnes actions. Mais la motivation est égoïste à l'arrière. Oh, mais là, maintenant, le monde va voir que j'ai donné. Exemple. Ben, tu donnes, puis tu dis, le monde va voir comment je suis généreuse. Ben, il n'y a déjà là pas une bonne motivation. Puis les gens ne vont pas le savoir, mais Dieu le sait. Si tu te dis, tu es coupable des mêmes choses, c'est un mensonge. Tu changes la vérité en mensonge, le mensonge en vérité. Puis Jacques appuie cette pensée dans Jacques 4:12, il dit, « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? » Sauver et perdre, c'est Dieu qui décide. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas personne ici. On peut pas condamner quelqu'un dans ce sens-là. Oui, Dieu dit « juger l'arbre selon ses fruits », mais juger l'arbre selon ses fruits, c'était pas la condamnation. C'était pas « t'es perdu à tout jamais, il n'y a rien qu'on peut faire pour toi ». Ça, c'est condamnation. Dieu sait qu'il peut sauver, qu'il veut sauver tout le monde d'ailleurs. C'est ce qui est écrit dans les Écritures. Et aussi, nous avons vécu un peu l'expérience personnelle où est-ce que des chrétiens ont été décevants. Par exemple, mon mari, quand il avait un certain défi au travail, il y avait au moins 4 chrétiens qu'il connaissait, qu'il avait contact avec. Il y en a juste un, quand il y a eu des défis, qui a vraiment été un appui. Les autres, ils ne connaissent plus tout d'un coup, tu sais. Mais à notre étonnement, ceux qui ont vraiment été derrière pour soutenir aussi mon mari, c'était une athée, une lesbienne, des gens que vraiment, tu dirais, « Wow! » Il y aurait les raisons de ne pas l'aimer, sachant qu'il était un chrétien. Alors, faisons attention à comment on traite l'être humain, comment on traite les autres, comment quelle est la façon qu'on communique avec eux et le message qu'on leur donne. Alors, c'est cette femme qui appelle la police. Puis, elle appelle, puis elle dit, « Écoute, elle dit, il y a des gens sur la rue qui font toujours de la vitesse. Puis là, ça commence à être vraiment dangereux pour les enfants parce qu'ils vont à l'école. Puis c'est vraiment, là, c'est épouvantable, ces rapaces, ils vont super vite puis ils vont tuer un enfant. » Alors, la police prend l'appel au sérieux. Alors, le matin suivant, il se fait arrêter par la police. Et là, il est comme, ben là, elle se plaint. Elle dit, « Mais c'est moi qui ai appelé pour dire qu'il y avait des personnes qui faisaient de la vitesse. » Alors, l'officier dit, « Ben madame, vous devriez être contente qu'on ait attrapé une. » Je pense que c'est ça que Paul essayait un peu de démontrer comme image, vous voyez? C'est un autre exemple que je pourrais vous donner, parce qu'elle, elle juge les autres, mais elle fait la même chose. C'est ce chevalier qui va voir le roi en revenant de guerre pour lui donner des nouvelles. Alors, le roi le voit et dit, « D'où viens-tu? » Il dit, « Ah, justement, je viens de combattre tes ennemis dans l'ouest. J'ai pillé, brûlé, saccagé les villages dans l'ouest parce que c'était des ennemis. » Le roi est comme, « Oh, oh non! » Il dit, « Quoi? » Il dit, « Mais j'avais pas d'ennemis dans l'ouest. » Il dit, « Ben, maintenant, t'en as! » Des fois, on crée des ennemis de Dieu par l'attitude de supériorité, par la condamnation qu'on donne aux gens. Et c'est dangereux. Il y a un homme que j'aime beaucoup, un homme de Dieu qui est maintenant décédé, mais son nom, c'est David Wilkerson. il a eu un impact incroyable comme homme de Dieu parce qu'il n'a pas été affecté par « moi, je suis sanctifié et les autres sont mauvais ». Et il a vraiment eu une compassion énorme pour des gangs de rue à New York. Lui, il venait d'un village, là. Il ne savait rien de New York. Mais il voyait ce magazine, puis comme il priait chaque soir, puis il priait chaque soir, puis il y avait ce magazine de New York Times, ou je ne sais pas quoi, puis il y avait les visages de ces deux personnes, il y avait des deux groupes de gangs qui étaient vraiment toujours en bataille, et il avait été arrêté, ou des choses, puis il y avait des nouvelles là-dessus. Puis ça venait le chercher, qu'il a senti vraiment comme Dieu, il a vraiment mis l'impression qu'il devait aller à New York. Puis les gens ont pensé qu'il était un peu fou d'aller à New York. Il a même laissé sa femme, sa famille derrière le temps qu'il est à New York. Puis il a rencontré le chef de gang des Mau Mau, qui était Nicky Cruz. Et au départ, c'était difficile. Nicky était vraiment plein de haine. Il lui disait qu'elle allait le tuer, qu'elle allait mettre son corps en morceaux, puis vraiment de lâcher tranquille et tout ça. Puis, il a continué à faire le ministère auprès des gens, même des prostituées, des gens de dans la drogue et les gens de gang qui étaient prêts à l'écouter. Puis, un jour, Dieu, par son Saint-Esprit, a touché le cœur de Nicky Cruz. Nicky Cruz, c'est le monsieur qui tient le micro, là, puis David Wilkerson est à l'arrière. Et Nicky Cruz a été totalement délivré, transformé. Mais pas juste lui, mais plusieurs avec lui, et c'est de là qu'est parti le mouvement de Défi Jeunesse pour sortir les gens des addictions, même en français, c'est Défi Jeunesse, en anglais, c'est Teen Challenge. Donc, c'est de cet élan. Mais s'il avait eu l'attitude que moi, je suis meilleur et ces gens-là sont mauvais, jamais qui aurait eu cet impact. Jamais! C'est pas possible. Le gars, il a craché dans le visage, il a tout fait pour que David le lâche tranquille ou l'aime plus ou ne veut pas l'aider. Mais il a continué. L'amour de Dieu, quand elle rentre dans nos cœurs, elle devrait avoir cette lumière. Si une personne veut porter jugement sur les autres, critiquer et être dur envers les autres, ils doivent être prêts aussi à récolter ce que ça va donner comme semence. Si tu veux que Dieu soit miséricordieux avec toi, bien, il faut l'être aussi avec ses autres enfants. Il faut toujours se rappeler que toute l'humanité, c'est les enfants de Dieu, qui les a créés, qu'il est leur créateur. Alors, personne ne mérite la grâce de Dieu, ni la vie éternelle. Vive cette réalité de ta vraie condition et de la grandeur de la grâce de Dieu dans ta propre vie te permettra de donner amour et grâce aux autres. Si je sais de quoi je suis pardonnée, si je sais de la mauvaise nouvelle que j'ai le cancer et que je vais mourir dans 2 ans, bien, je vais être capable de donner la bonne nouvelle, pas que j'ai l'Alzheimer, ça c'est autre chose, mais que j'ai l'antidote au cancer. N'est-ce pas? Donc, tu vas vouloir la donner aux autres. Alors, être chrétien, si je peux démystifier ça pour vous aujourd'hui, c'est pas de joindre un club puis de se frapper dans le dos de comment nous, on est saints et meilleurs que le monde. Non, ce n'est pas du tout notre appel. On doit avoir compassion pour nos collègues au travail qui luttent avec l'alcool, avec la pornographie, avec l'homosexualité, avec la drogue, avec la nourriture comme... Ceux qui ont l'addiction à la nourriture, ils ont des problèmes émotionnels puis ils mangent leurs émotions. La dépression. Si tu n'as pas cette compassion, ben, tu ne vas pas prier pour la personne. Tu ne vas pas vouloir lui parler de l'amour et la grâce de Dieu qui délivre, guérit et restaure. Mais si tu as cette compassion, c'est ça que tu vas faire. Et Dieu nous a appelés à libérer les captifs, à y aller, à ne pas avoir peur et honte de l'Évangile. La semaine passée, on a appris que l'Évangile, on ne peut pas avoir honte. Je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai point honte. C'est aussi dans comment tu vis, dans tes attitudes envers les autres. Parce que c'est plus facile de juger ton prochain et de dire à quel point cette société est perverse et loin de Dieu que de faire quelque chose pour. C'est plus facile. ça fait moins mal et ça nous rend moins vulnérables. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais Christ nous a dit « Allez! » Il n'a pas dit « Revenez! » Il a dit « Allez! » Faites de toute nation des disciples. Alors, une foi qui est saine attire les gens. Jésus attirait les gens à lui. Il ne les repousse pas par une attitude de supériorité comme le faisaient les pharisiens. Souvent, les chrétiens, on ne veut pas l'admettre, mais on ressemble plus à un groupe de pharisiens qu'à Jésus. J'ai Hank Body qui est d'accord ici ce matin. Alors, Paul continue. Ah, il est le fun, Paul, ce matin. Hein? Il nous rentre, ça. Ah ouais, Paul. Apôtre Paul continue à élaborer sa pensée en démontrant justement la culpabilité des Juifs, qui se pensent malheureusement exempts de la colère et du jugement de Dieu. Nous, il n'y a rien de mal avec nous. On va faire attention. Faites attention maintenant à les prochaines lectures que je fais aux mots soulignés, qui sont des verbes que j'ai soulignés. Alors, ça le fait encore plus intéressant. « Toi qui te donnes, » c'est dans Romains 2, 17 à 28, « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Et toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Et c'était vrai que dans ce temps-là, à cette époque-là, les Juifs avaient mauvaise réputation parmi les païens. Pour plusieurs raisons, une attitude de supériorité attire jamais les gens, en passant. Et ils avaient ça vraiment à... Il y avait un certain racisme, il y avait aussi, ils s'exemptaient de travailler, d'être militaire à cause du sabbat, ils avaient aussi plusieurs petites choses qui faisaient que les gens étaient comme « Ah, c'est des paresseux, c'est des… » Donc, il y avait quand même une haine, ou une, pas une haine, mais des fois, les gens étaient comme « Ah, un juif! » La circoncision, il continue, est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alors, si je suis disciple de Christ, quand on parle de juif, c'est aussi disciple de Christ, qu'on peut le voir maintenant, je ne m'identifie pas sur mes apparences extérieures, la circoncision physique, mais sur ma condition intérieure, qui est la circoncision du cœur, afin de marcher dans la vérité et de ne pas la garder captive par le mensonge d'un faux semblant, d'un masque. Et le défi avec Paul vis-à-vis les Juifs, c'est qu'il dit, vous dites, faites pas ça, nanana, nanana, mais vous le faites en cachette. Vous le faites d'une manière subtile et autre. Tu dis, vole pas, mais tu voles tes taxes. Ça marche pas. C'est voler pareil, right? Alors, il y a des choses qu'il faut faire attention. Tu enseignes les autres, mets-toi jamais en colère. Et t'es super en colère. Il faut être cohérent. Et Paul est un peu frustré. Il est comme, vous n'êtes pas cohérent. Vous vous identifiez sur la loi, sur fais pas ci, fais pas ça. Vous vous identifiez sur moi, je suis circoncis. Mais la circoncision, c'est un symbole d'une alliance, mais c'est aussi un symbole que Dieu retire, retranche le mal. Ben, si le mal est encore là, ça ne donne rien. C'est juste un symbole. C'est comme dire que le baptême sauve. Non, le baptême par immersion, c'est un symbole. C'est pas ça qui sauve. C'est une déclaration publique. La circoncision est exposée de ce genre de choses. Mais c'est devenu le moyen d'être sauvé. Il imposait maintenant même aux gentils, « Il faut que vous soyez circoncis, sinon vous n'allez pas vraiment au ciel. Ah! » Pauvre monsieur de 70 ans! Ah! Et des fois, on impose des choses sur les gens qui sont des lois humaines ou superficielles. Tu n'as pas le droit d'avoir telle chose sur toi. Ou tu n'as pas le droit d'avoir des cheveux longs comme ça. Il faut qu'ils soient dans une bonne. Ou tu n'as pas le droit de parler de pantalon quand tu es une femme, c'est une jupe. Ou tu n'as pas le droit. C'est des. Écoute, tu n'as pas le droit de porter de jean à l'église. Écoute, Jésus portait une robe. Mettez-vous tout en robe. T'es en sandales. C'est hors contexte. Tout le monde doit avoir une cravate à l'église. Jésus n'avait pas de cravate. C'est ridicule. Mais c'est ça. C'est rendu qu'on fait des choses traditionnelles, humaines. Et c'est ça que les Juifs faisaient continuellement. Continuellement, ils s'attachaient à des affaires, des fais pas. Faut faire ou pas faire. Et leur identité, leur foi était basée sur des choses comme ça. Et ils se fiaient beaucoup sur leur héritage juif aussi. Ah, oh, mon père, moi, il est Abraham. Mon ancêtre, c'est Abraham. Il dit, ouais, mais ça donne rien. Ça va rien changer. Il s'appliquait aussi, il pensait aussi que l'application des lois externes, c'était ça qu'il fallait s'attacher à. Il y avait, à cause de ça, une attitude de supériorité vis-à-vis les autres peuples. Et à l'époque de Paul, c'est comme s'ils ont déformé la réforme de Néhémie et d'Esdras. Au départ, quand le peuple est revenu en Israël, on l'a étudié avec Néhémie, ceux qui étaient là avec nous quand on a fait la série, 2014, on a fait une série sur Néhémie. Et dans la série, on vous a rappelé que le peuple avait beaucoup désobéi, il avait été dans toutes les mauvaises choses, idolâtrie, tout ça. Fait que pendant la captivité, il y a eu cette concentration sur la loi, sur enseigner la loi. Ils ont réalisé que le peuple, oui, il allait sacrifier, mais il ne connaissait pas la loi. Il ne l'avait pas ici ni ici. Alors, ils ont vraiment mis de l'emphase sur l'application de la loi. Puis, eux, ils avaient une rigueur. Fait que quand ils sont revenus à Jérusalem, ils ont réalisé que ceux qui n'avaient pas été déportés avec eux, c'était toute une autre histoire. Il y avait beaucoup de mélanges, de mariages mixtes avec des idolâtres. Il y avait la pratique de l'idolâtrie. Et eux, ils ont été rigides pour essayer de réformer et de ramener ces gens dans le bon chemin afin que toute la nation se protège contre l'idolâtrie. Mais, dans le temps que Jésus et Paul et tout ça, les Juifs, ils se sont mis maintenant tellement obsédés avec la sanctification et la purification de l'enseignement des ordonnances de Dieu qu'ils sont allés vers une application plus légaliste et sectaire. Ils sont devenus qu'ils ajoutaient des lois aux lois pour ne pas enfreindre la loi. Puis, ils devenaient vraiment stressés et il devenait sectaire et c'est devenu une religion sans puissance et sans impact. Ça n'avait plus le pouvoir de transformer. Et on voit Jésus que les gens courent vers lui parce que lui a le pouvoir de transformation. On voit la femme samaritaine qui a eu 4-5 maris qui vient à lui et est à côté quand elle vient à lui, puis elle sort de cette rencontre transformée. Elle va vers son village qui certainement la rejetait parce qu'elle était en train de puiser de l'eau toute seule au lieu d'être avec les autres femmes en plein milieu de la journée. Elle court vers le village, elle dit, « Cet homme a dit tout ce que j'ai fait! » Ben là, tout le monde est couru vers Jésus. Puis tout le monde a réalisé que cette femme était transformée juste par ses actions, d'avoir le courage, d'avoir pas avoir la honte de venir vers eux, de proclamer l'Évangile. C'est ça la puissance transformatrice de la parole de Dieu. Mais ceux qui s'identifient à l'apparence extérieure se sentent facilement menacés dans leur foi. Pourquoi? Parce qu'elles reposent sur des règles et des lois. Donc, ils se sentent menacés parce que, mais on n'a pas le droit de faire ça, là! Mais non! Jésus, tu n'es pas supposé de manger avec des publicains, là! Mais là! Jésus, tes disciples sont supposés de laver les mains comme ça, là! Mais là, Jésus! Comment ça, tes disciples, là? Wow! Wow! Ils sont menacés! Parce que c'est pas comme nous, on fait, là! C'est pas comme ça, puis comme ça! Puis la femme adultère, il faut la lapider, là! Puis, ils sont tous dans des boîtes. Ils n'ont plus d'impact, ils n'ont plus de puissance. Mais quand Christ vit en toi, il est en charge de ta vie, de tes émotions, de tes pensées, de tes choix et tes actions, tu ne te sens pas menacé. Tu ne te sens pas menacé devant des défis, des gens avec des apparences différentes. Si quelqu'un vit un autre trouble, un trouble sérieux, puis qui vient à toi pour de l'aide, tu ne te sens pas menacé. Parce que tu es solide dans ta foi. Tu es capable d'y amener l'espoir. Tu es capable d'y amener une parole transformatrice. Puis tu es capable de t'investir dans la personne sans toi devenir comme la personne dans le péché. Tu es capable d'amener la personne à sortir du péché. Ah, mais pour ça, il faut que ta foi ne soit pas sur des lois et des règles. Il faut qu'elle s'identifie vraiment en Christ. En Christ, dans son amour et sa compassion. Et cette obsession avec l'apparence est en fait une lutte que nous avons avec le perfectionnisme. On veut nous-mêmes être mériter nous-mêmes, être parfait devant Dieu, nous-mêmes avec nos œuvres, dire « voilà Dieu, je suis bon ». Mais on n'est pas bon. On est tous pas bons. Mais Dieu, dans sa grâce, nous rend bons. Dieu, dans sa grâce, nous restaure. Dieu, dans sa grâce, nous libère. Dieu, dans sa grâce, nous pardonne et nous rend libre. Et le mythe aussi qu'on a avec le perfectionniste, c'est qu'il semble confident et sécure. Il veut tout que soit parfait. Mais la réalité, c'est qu'il est vraiment insécure. Il faut toujours qu'il projette une image. Une image. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress et d'anxiété. Souvent, on souffre de dépression, ouais, quand ça ne va pas assez bien, c'est pas assez parfait. Mais notre société est obsédée avec le perfectionnisme aussi. La femme n'est pas assez parfaite qu'il faut qu'on prenne une photo puis qu'on aille dans l'ordinateur puis qu'on y enlève des centimètres au ventre puis qu'on met des cheveux comme ça, comme si tout le monde se promène avec les cheveux qui... Et ensuite, le maquillage, et on a une obsession avec notre idéal. Ce n'est pas l'idéal de Dieu. Des attentes irréalistes. Les jeunes filles qui sont anorexiques à cause de ces images-là. Et encore là, c'est une attitude de vouloir par nous-mêmes paraître ou vivre. Et on ressemble à cette dame qui a disparu pour 4 ans. C'est une dame âgée. Adèle, elle est morte. Elle était dans la maison. Et puis, il y avait les voisins qui ont commencé à réaliser qu'elle a disparu. Alors, ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas, ils ont appelé la police. La police a contacté la famille a dit, oh non, elle est partie dans un centre d'accueil pour les personnes âgées, et puis elle est là-bas. Oh, OK. Alors, les voisins ont décidé qu'ensemble, ils allaient prendre soin de la maison. Ils ont pris soin de la maison, la malle, toutes sortes de choses, pendant 4 ans. Puis un jour, il y a eu un problème avec la maison, fait que la police a dû entrer dans la maison pour découvrir que la femme était morte dans la maison depuis 4 ans. Et puis, quand ils ont découvert cela, ils ont eu tous un choc, parce que eux, de l'extérieur, finalement, avec l'aide des voisins, la maison paraissait très bien. Mais la dame était morte à l'intérieur, fait qu'il y avait la mort à l'intérieur. Et parfois, on peut avoir cet acharnement à paraître bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a une mort spirituelle qui est là. Puis Dieu veut nous délivrer de cela. Et c'est ça que Paul encourage les Juifs. Il dit, écoute, oui, vous paraissez bien, mais il y a quelque chose qui manque. Alors, c'est appuyé, par exemple, dans Jacques 5, 16, on montre la solution à cette mort spirituelle intérieure. Ça dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. C'est important parce que quand on confesse, c'est là que la mort sort. Ce qui est mort redevient vivant parce que ce qu'on cache, ben, il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien qui va amener une solution à ce qui est caché, à ce qui est enfermé, comme ce corps qui est enfermé. S'il avait été à la découverte, ben, la maison n'aurait pas été infestée. Vous comprenez? S'il l'avait trouvé, pas après 4 ans. Des fois, avec le péché, c'est ce qu'on fait. On le garde secret, mais on n'en est pas libre après. Mais pour le faire, il faut être vulnérable. Et c'est ce qui manque beaucoup dans beaucoup d'églises, c'est la vulnérabilité. On veut tous paraître comme on est tous super avec notre grosse Bible, notre connaissance biblique et réciter les versets. C'est bien, mais il faut qu'on soit honnête et vulnérable. Moi, j'ai des faiblesses. Je ne suis pas parfaite. Il y a plein de choses que je fais de mal. Je n'ai pas de problème à le dire. Je me suis trompée, je me suis mis en colère, j'ai mal agi. Moi, j'apprends que d'ailleurs, la plupart du temps, les motivations humaines sont mauvaises. Que la plupart du temps, je n'ai pas un bon cœur devant Dieu, qu'il faut aussi à cause de lui que je suis bonne. Ce n'est pas à cause de moi. Et quand j'ai cette attitude et cette vulnérabilité, ben, les gens n'ont pas peur de m'approcher et de dire qu'est-ce qu'eux vivent, puis comment je peux, moi, maintenant, avoir un impact parce que moi-même, je suis vulnérable. Je ne suis pas comme toi, tu es donc mauvais, puis moi, je suis tellement bonne. Personne ne veut aller avec quelqu'un comme ça, leur dire les luttes qu'ils vivent. Alors, Paul continue à libérer sa pensée en démontrant en conclusion, et oui, on arrive à la conclusion, la culpabilité du monde, juif et grec, devant la colère et le jugement de Dieu, car la loi, en soi, n'est qu'un miroir. Elle ne sauve pas. Alors, maintenant, il veut montrer la culpabilité du monde entier. Romains 3, 9 à 20. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Et je commence au verset 9, comme vous voyez. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous leurs lèvres un venin d'aspect. Ils ont sous leurs lèvres, un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi, en soi, est un miroir qui dévoile le péché en nous, mais elle ne peut sauver. C'est par la loi que tu sais que tu es pécheur, que tu as manqué la cible. Je garde la vérité captive lorsque je sous-estime l'emprise et la gravité du péché dans ma propre vie. C'est facile de minimiser nos erreurs, c'est facile de minimiser nos péchés, de dire « Ah, ben moi, regarde l'autre, lui a fait ça. » Dieu ne va pas, quand tu vas aller devant Dieu, au jour du jugement, tu ne vas pas pouvoir dire « Ouais, mais c'est parce que mon père, là, il m'a fait ça, puis ma mère, ça, puis ma soeur, puis c'est à cause de mon enfant qui a fait ci, puis c'est à cause de mon patron qui a fait ça. » Est-ce que vous allez pouvoir avoir ce discours-là devant Dieu? Non. Parce qu'on ne peut pas contrôler les actions des autres, mais on peut contrôler nos réactions aux actions des autres. On peut contrôler notre attitude, l'amertume qu'on garde ou le pardon qu'on met dans notre cœur. On peut contrôler toutes ces choses-là. Fait que Dieu ne va pas être comme, « Oh, pauvre petit pitou! Tu n'as pas de bon sens, comment on t'a maltraité sur la terre! Oh, viens dans le ciel! » On ne peut pas sortir de « victim card ».« Je suis victime! » Puis souvent, on le fait. Mais quand on le fait, on se ment. On se ment à la, sur terre ici. Et la pensée ultime de Paul ici, c'est « Hey, tous, on est coupables. Arrêtez de jouer la victime ou le meilleur. Tous, on est coupables devant Dieu. Nul n'est sans besoin de rédemption, de grâce et de miséricorde de Dieu. » Puis des fois, tu portes jugement sur les faiblesses des autres, parce que peut-être toi, c'est ta force. Mais il y a peut-être des forces que tu as que la même personne, ou pardon, il y a peut-être des faiblesses que tu as que pour l'autre personne, c'est des forces. Alors, pendant que toi, tu le juges, tu ne réalises pas qu'il pourrait te juger lui aussi. Sur d'autres affaires. Parce que l'expression du péché peut être différente selon ton... ta personnalité, ton arrière-plan, ta culture, beaucoup de choses font en sorte qu'il y ait un péché est exprimé d'une façon et d'une autre dans une autre culture ou dans une autre famille. Ou dans... Cependant, péché, c'est péché. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est coupable ou pas coupable, là, c'est coupable. Alors, lorsque je le sous-estime, l'emprise du péché dans ma propre vie, je garde la vérité captive, enfin, je minimise mes fautes, mes manquements, puis je ne réalise pas l'impact que le péché a sur moi-même, sur mes relations humaines et ma relation avec Dieu. Je ne le réalise pas. Je vis un mensonge, une illusion, quand je minimise. D'ailleurs, Jean, l'apôtre Jean, il est fort. Il dit dans 1 Jean 1, 9 à 10, il dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Et ce n'est pas que de dire, « Oh, j'ai jamais péché de ma vie. » C'est pas ça. Mais quand tu blâmes l'autre pour avoir été en colère, tu n'es pas en train de faire ça? Tu n'es pas en train de dire que toi, tu es sans péché pour avoir frappé l'autre parce que l'autre, il t'a, je l'ai frappé parce que là, c'était trop. Il m'a trop provoqué. Oui, peut-être que lui aussi avait un péché, mais toi aussi, en le frappant pour le dominer, tu as péché. Dans ta colère, parce que les colères, c'est une émotion, ce n'est pas un péché en tant que tel. C'est l'expression de cette émotion et la gestion de cette émotion qui est mauvaise ou bonne. Et parfois, c'est des choses comme ça qui font qu'on se justifie de quelque chose qu'on ne devrait pas se justifier. Et on fait exactement ce que Jean dit qu'on n'a pas de péché. Puis on devrait être vite à dire, « Je suis coupable. Je suis désolée. Probablement que j'avais une mauvaise motivation pour telle, telle, telle chose. » Mais c'est dur, parce qu'on veut toujours être à la défensive. On veut toujours montrer que nous, là, on est bon, puis on a raison, puis on n'est pas péché. C'est juste humain. Regarde Adam, la femme que tu m'as donnée. Pourtant, il l'avait mangée, lui. Là, le fruit. Mais c'est comme, la femme, c'est elle. Mais juste avant, il avait dit, oh, les os de mes os, la chair de ma chair. Wouh! Ah, qui est belle! Puis là, oh, faut que je me repente. No way. Il. Et c'est la nature humaine pécheresse de faire ça. Mais ce que Paul encourage ici, c'est reconnais-le. Reconnais-le. C'est de même que tu vas être transformé. C'est de même que tu vas te changer. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Hein, l'alcoolique dit toujours, je vais m'en sortir quand je veux. Puis tant qu'il dit ça, il s'en sort pas. Parce qu'il veut jamais arrêter. Mais tant qu'il dit, je suis pas capable d'arrêter. Je suis addicté à l'alcool. Ah! Là, on peut faire de quoi avec lui? Première étape des 12 étapes. Première étape, c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Ça me fait penser à ce vieux prédicateur qui appelle le docteur et l'avocat de sa congrégation, ses membres, parce qu'il est mourant. Puis il veut que cet avocat et que ce docteur, membre de sa congrégation, soit avec lui dans son lit de mort. Alors, le docteur et l'avocat se sentent vraiment comme « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Alors, ils viennent à la maison, on les amène dans la chambre, puis le prédicateur sur son lit veut vraiment que le docteur se place là puis que l'avocat se place ici, à côté de son lit. Puis il fait « Ah! » Il regarde le plafond. Et là, il y a un silence. Puis là, l'avocat et le docteur se regardent puis ils disent « C'est… » Ils se sentent flattés, mais en même temps, ils se demandent « Mais pourquoi il nous a demandé? » Il a toujours été tellement condamnateur avec nous parce que ses sermons les mettaient toujours mal à l'aise quand il parlait de la convoitise, de l'avarisme et ces choses-là. Alors, le docteur, il dit, il regarde le prédicateur, puis il dit « Écoute, pasteur, pourquoi tu nous as demandé tous les deux ici? » Alors, il sourit puis il dit « Ah, Jésus est mort entre deux voleurs. Moi aussi, je veux la même chose. Je veux partir de la même façon. » Comme Paul, nous devons grandir en vulnérabilité et humilité, afin de pouvoir reconnaître notre besoin aussi de la grâce de Dieu pour nous-mêmes. Reconnaître nos propres mauvaises motivations, égocentrisme, etc. Et ne pas passer notre temps à condamner les autres. L'attitude du prédicateur en vous et moi est mal placée. Ben. Oui, sauf que lui-même, c'est peut-être que c'est vrai, peut-être que ces deux hommes étaient voleurs, mais lui-même a certainement des péchés et ne peut pas se penser comme étant Jésus. Parce que même Jésus n'a pas eu cette attitude entre les deux voleurs. Il a même cherché à sauver un qui était prêt à le recevoir. Ce qu'il faut retenir ce matin de l'enseignement de Paul est que l'on doit reconnaître notre état réel de pécheur devant Dieu, que nul ne mérite la grâce de Dieu ou son amour, mais qu'il l'offre. Il l'offre comme un don gratuit. Il s'est offert en sacrifice pour nous sauver, pour nous racheter. Et nous tous, on ne peut pas se sentir meilleur parce que nous, on a peut-être accepté le don. Le don, c'est quand même le don. Je ne peux pas me vanter d'avoir, si quelqu'un me donne une Mercedes-Benz de l'année, je ne peux pas me vanter et penser que ceux qui n'ont pas sont-ils donc paresseux et ainsi de suite, puisque moi, ça m'a été donné. Puis des fois, c'est de leur faire reconnaître qu'eux aussi, ils l'ont ce don-là, mais ils ne savent peut-être pas. Le piège du croyant est de se penser plus parfait ou de méritant que les païens, ou ceux qui ont des péchés différents ou plus graves, des addictions qui sont peut-être destructives dans leur vie, et ainsi de suite. Mais sans réaliser que parfois nous avons la poutre dans l'œil, puis on regarde la paille de l'autre. Puis on dit « Attends, là, je vais t'enlever ça! » Puis on a un bâton qui sort de notre œil pendant que l'autre a une petite affaire. Comme l'image ici, et souvent c'est l'attitude qu'on peut avoir. Mais Dieu nous appelle à démontrer son amour aux autres, et cela se fait lorsque nous acceptons sa grâce pour nous-mêmes et cessons d'essayer d'être parfaits par nos propres forces et mérites. J'aimerais appeler les musiciens, pasteur Emmanuel, à l'avant. Et j'aimerais vraiment qu'on réfléchisse à ceci. Si on peut juste pencher nos têtes, on va finir dans quelques moments. J'ai trois appels ce matin. J'ai un appel pour ceux qui veulent accepter la grâce de Dieu dans leur vie, dans leur situation présente, afin qu'ils soient libérés des préjugés. Parfois, c'est difficile pour toi. Dès que la personne a un problème qui est différent que le tien ou d'une culture différente, tu portes facilement un jugement sur l'autre personne. Et ça crée une distance, ça crée un mur, une barrière. Même avec les gens au travail, parfois, dans leur langage, leur style de vie, tu es dans des accords et tu n'es juste pas capable de créer ce lien, de pouvoir être, de créer des ponts. Peut-être par préjugé, par légalisme. Puis peut-être parce que tu es insécure dans ta foi, peut-être tu t'appuies beaucoup sur qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire, et tu es un peu moins en Christ, un peu moins, ton identité est moins en Christ qu'en ce que tu fais ou fais pas. Puis ce matin, Dieu veut venir puis veut te donner sa présence, son Saint-Esprit, afin que tu puisses avoir un impact réel dans la vie des autres. Mais que toi-même, tu puisses sentir sa puissance pour toi-même. De ne pas toujours porter jugement, mais d'avoir compassion. Compassion comme Jésus a eu compassion. D'être assez forte dans ta foi pour pouvoir être une lumière. De ne pas avoir crainte que les ténèbres t'envahissent. Mais quand tu es une lumière, tu brilles, c'est toi qui as plus d'impact que les ténèbres. Quand la lumière est en toi. Alors, j'aimerais pour ceux, peut-être que ça fait longtemps que tu es chrétien, peut-être que ça fait longtemps, puis tu sais, des fois, sans le réaliser, on devient un peu comme les pharisiens. On ne réalise pas l'ampleur de l'emprise du péché sur notre propre vie. On minimise nous, puis on maximise les autres. Et je sens vraiment que Dieu veut nous appeler à être plus vulnérables. Alors, mon appel pour eux, c'est: tu veux devenir plus vulnérable. Ma deuxième appel, c'est pour ceux qui vivent des crises d'identité ou ceux qui vivent des défis avec des addictions secrètes ou cachées. Avec l'idolâtrie ou une dépendance peut-être même relationnelle. Tu n'es pas bien tant que tu n'as pas une relation. Tu ne peux pas être bien seul. Tu as toujours besoin d'avoir un chum, une blonde ou de te chercher dans les autres, être une extension de l'autre. Souvent, tu ne t'acceptes pas toi-même. Tu ne t'aimes pas comme tu es, comme Dieu t'a créé. Et mon troisième appel, c'est ceux aussi qui luttent avec le perfectionnisme. C'est ceux qui sont durs envers eux-mêmes, durs envers les autres, parce que c'est jamais assez parfait. Parce qu'ils ont peur des erreurs. Ils ont peur des échecs. Et ils veulent toujours, toujours créer cette image. Et si c'est toi ce matin, si tu as peur de l'échec, si tu as peur de manquer, si tu as peur de faire une erreur, Dieu veut te délivrer de ça. Dieu veut te délivrer. Alors si un des appels, si c'est pour te rendre plus vulnérable, lutter contre le perfectionnisme, si c'est pour des crises d'identité ou des luttes personnelles, Dieu veut nous délivrer ce matin afin qu'on ne garde pas la vérité captive. Alors, pendant qu'on va chanter, je vais laisser ça juste rentrer en vous. Et juste donner ça à Dieu. Donnez vos défis personnels. On va chanter ensemble, mon Seigneur, une nouvelle touche de toi pour faire face, Seigneur, à leurs défis, Seigneur. Pour pouvoir, Seigneur, avoir plus de compassion et d'amour pour leur prochain. Pour pouvoir, Seigneur, se rendre plus vulnérable devant toi et devant ceux qui peut-être blessent parfois, Seigneur, afin, Seigneur, de pouvoir non avoir une foi qui est extérieure, mais être circoncis de cœur, Seigneur. Afin qu'ils puissent, Seigneur, accepter leur culpabilité devant toi, afin qu'ils puissent être pardonnés, transformés et équipés pour aller être une lumière et transformer d'autres vies autour d'eux. Seigneur, je te demande, Seigneur, que les personnes ici, Seigneur, puissent être des lumières, là où ils se trouvent, dans leurs emplois, dans leur famille, Seigneur. Peu importe leurs amis, qu'ils aient des amis qui sont non-croyants, Seigneur, autour d'eux, qu'ils puissent avoir un impact, Seigneur, qu'ils le réalisent maintenant plus que jamais. Et qu'ils puissent être intentionnels aussi, Seigneur, dans la façon qu'ils communiquent l'amour que tu as pour eux, Seigneur. qu'ils soient intentionnels dans comment ils communiquent l'amour de Dieu chez les autres, Seigneur. Que tu puisses leur donner une double onction de patience, une double onction de douceur, une double onction de compassion et d'amour envers les autres. Et qu'ils puissent être en même temps fermes dans leur foi, recherchant pour leur vie personnelle la sanctification, recherchant pour leur vie personnelle de marcher de gloire en gloire, d'être transformés de gloire en gloire. Seigneur, je te prie, Seigneur, que ce que tu as donné au travers de ton apôtre, Seigneur, Paul, puisse transformer nos vies. Seigneur, qu'elle puisse avoir un impact dans notre temps personnel, dans notre temps avec les autres, Seigneur, qu'elle puisse vraiment avoir un impact dans notre vie. Nous te prions en ton nom tout-puissant. Amen.
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir, située au 2224 rue Inès à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le 41V4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.